Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. J'ai déjà dit mille fois tout le bien que je pensais de mon invité Léa Drucker, mais comme j'arrive à un âge où il est admis avec une certaine indulgence qu'on puisse se répéter, je ne vais donc pas me priver de le faire. Oui, passé un certain cap, personne ne se formalise si vous vous répétez, comme je suis en train de le faire, juste après avoir précisé que j'atteignais un âge où l'on tolère que vous vous répétassiez. Je le redis donc, je ne pense que du bien de Léa Drucker. Déjà, elle se prénomme Léa, et on remarquera que les Léa ont tout en partage ce regard lumineux et teinté de mystère qui ne laisse indifférent aucun mâle hétéro normé. Pensez à notre Léa Salamé maison, une Salamé qui n'a besoin d'aucune salaison pour être parfaitement conservée, ou votre consoeur Léa Seydoux, au sujet de laquelle Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, me confie encore ce matin avec sa délicatesse coutumière « Quand je vois Seydoux, c'est dur ». Oui, les Léa ont toutes ce petit je ne sais quoi, ce presque rien qui fait la différence, sans compter, en ce qui concerne la Léa présente dans notre studio, ce côté littéralement immarcessible. Mot difficile à placer au Scrabble, qui est, comme on le sait, la marque de fabrique des Drucker ayant choisi l'option métier du spectacle au baccalauréat. Bref, Léa Drucker est parfaite, ça tombe bien, c'est aujourd'hui la Saint-Parfait.
France Inter.
Pop.
Antoine de Caunes.
Bonjour Léa.
Bonjour Antoine,
n'est-ce
merci.
N'est-ce pas que vous êtes parfaite ?
Non.
Mais si vous allez nous le prouver tout au long de cette émission.
Je vous laisse avec votre subjectivité.
Également au menu de Pop, une question. Peut-on être un cinéaste allemand des années 70, vénère, à moustache, et être plus pop que Beyoncé ? Notre cinéphile, également moustachu, Ronan Crowe, nous apportera tout à l'heure un éclairage à cette question pileuse en nous parlant de Rainer Werner Fassbinder. Mais avant de parler pilosité et cinéma, parlons glamour et cinéma. Est-ce que ça vous convient comme programme ?
Très bien.
Bien. À mes côtés, celle qui a une passion pour les moustachus dans la pop culture, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine. Bonjour Léa.
Bonjour.
Votre pop moustachu préféré, c'est qui ?
Mon père. Ah bah oui, bah c'est surprenant. C'est comme ça.
Alors ça, quelle réponse ?
Ouais.
Votre pop moustachu préféré, c'est
mon
votre père. D'accord, restons-en là. Voilà pour le menu. Je laisse à un autre moustachu de la pop culture le soin de lancer cette émission.
Bonjour, c'est Christophe dans Pop et Pop, c'est parti.
Christophe, évidemment, Léa Drucker, vous partagez notre passion pour Christophe. Vous
ah
qui avez
oui.
les yeux bleus, vous aimeriez qu'il vous dise les mots bleus, les mots qu'il
j'adore
dit avec les yeux.
J'adore Christophe et j'adore sa personnalité. J'adore écouter des interviews de lui où parfois il ne dit plus rien. C'est quelqu'un qui ose les silences aussi. Et
C'était pas le cas chez nous. Hein.
Bah, sûrement pas chez vous, mais j'ai vu une interview il y a longtemps avec Édouard Baird où ils étaient tous les deux allongés par terre et ils disaient peu de mots.
Ah oui.
C'était très beau. Mais en plus, c'est un grand compositeur,
oui.
un grand chanteur.
Non,
il a
beaucoup parlé ici.
Il me plaît beaucoup.
Bien. Pop, c'est parti. Léa, ici, il existe une question qui correspond au lever de rideau du théâtre. Ouais, alors ça, c'est un rideau de fer. Hein. Bon, manifestement, notre réalisateur traîne plus chez Castorama qu'au théâtre. Bref, passons cette question. C'est... Léa Drucker, pour vous, c'est quoi la pop culture ?
La pop culture, je trouve que c'est une question où c'est assez difficile de répondre. Mais ce que je ressens, c'est que, pour moi en tout cas, la pop culture, c'est un moment de vie, un moment assez fort, peut-être quelque chose qui nous remplit à un moment donné où il y a l'espace pour ça. Et ça se passe souvent plutôt vers l'adolescence, fin de l'adolescence, juste avant qu'on commence à devenir adulte. Et par exemple, c'est un moment où on est sur une plage avec un Walkman où on met une cassette et on la retourne et la cassette s'enroule et il faut chercher un crayon pour écouter un Bowie ou pour écouter les Pretenders. Je crois que c'est un moment de joie où plus rien n'existe autour.
Continuez à rembobiner vos cassettes avec un crayon ?
Non, je suis passée comme tout le monde. J'appuie sur des boutons.
Mais oui, bien sûr, c'est ça le monde moderne. Bon, voilà une définition qui me convient, validée par Charline Roux.
Absolument.
Ok, je suis obligé de lui demander, c'est contractuel. Léa Drucker, premier pop break dans ce numéro de Pop pour écouter une nouveauté signée Diplo avec Lil Yachty et son petit Gold. Et ce morceau, c'est Worry No More.
Yeah. house on the shore. I just want a big house like SB. So kiss me if you can. I'm chasing after my dreams. I wanna be the man. I wanna be the star on the scene.
T'inquiète pas, je vais pas m'en faire. C'est extrait du nouvel EP du producteur américain Diplo California. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Léa Drucker. Oui, c'est vous Léa. Mais qui êtes-vous Léa? Réponse avec votre pop portrait. Alors votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est Charline Roux qui s'y colle.
Alors excusez-moi patron, vous sentez pas trop seul sur le dossier. Il se trouve que moi aussi j'adore Léa Drucker. En premier lieu parce que je sais que blondes have more fun et que c'est toujours mieux de passer une heure avec Léa qui confesse préférer les comédies parce qu'elle est d'un naturel joyeux qu'avec n'importe quel autre comédien, comédienne de type « Ouais mais non, tu vois c'est pas exactement ça, tu vois ». Faut que je veux dire. Et puis j'aime aussi Léa Drucker parce que ce même naturel joyeux ne l'empêche pas d'être percutante dans toutes les palettes. Elle irradie aux côtés d'Edouard Baird, au théâtre comme au ciné. Elle n'hésite pas à rechausser les patins pour Narco de Gilles Lelouch et Tristan Auroué. Elle est une merveilleuse femme de la vie de l'homme qui lui-même en a un, d'homme de sa vie, sous la direction de Zabou. Aussi à l'aise dans l'univers de Simenon pour Amalric au ciné dans La Chambre Bleue que dans l'espionnage à la télé où elle est un génial, je pèse mes mots, Docteur Balmès dans le non moins génial Bureau des Légendes. Et puis sueur froide persistante avec Jusqu'à la garde, d'aucuns murmureront César, les autres n'ont évidemment pas vu le film. Et dans le film d'Agnès Jaoui, Place publique, Léa Drucker est encore une fois sensationnelle en productrice télé. Je vais être à court de superlatifs, donc je m'arrête là. Mais vous voyez Antoine, moi aussi j'aime Léa, donc c'est pas la peine non plus de jouer le concours.
Quoi. Oui mais alors on avait dit qu'on jouait Good Cop, Bad Cop, ça veut dire quoi?
Bah ça marche pas aujourd'hui.
Ça marche pas du tout non. Aujourd'hui. Bon, donc tout le monde vous aime Léa, ça valait cette émission pleine de love?
Non mais c'est merci.
Ça non, mais parfois c'est lourd à porter.
Non, ça, enfin... Ça me fait rougir et en même temps ça donne de l'élan parce qu'il y a des moments dans les parcours des comédiens où on se prend aussi des petits coups sur la tête et donc ces moments-là redonnent encore de la joie et de la confiance en soi.
Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Alors Léa Drucker, on connaît les films dans lesquels vous avez tourné, en revanche on connaît moins les films que vous aimez. D'ailleurs on ne sait pas non plus ce que vous lisez ni même ce que vous écoutez, voilà donc au moins trois bonnes raisons de passer à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Et pour le film, votre choix s'est porté sur Peggy Sue s'est mariée, réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 86. Je rappelle rapidement le pitch. Les anciens du lycée Buchanan, classe 1960, se retrouvent pour leur 25e réunion. Ce soir, ils sont venus en habit d'époque. Peggy, très populaire en 1960, se retrouve reine de la soirée avec pour partenaire son mari Charlie, le rocker. Mais ce tandem si brillant jadis est sur le point de se séparer. Extrait.
Come on. What are you doing? Wait a minute, what are you... Dylan, I want to tell you something. Only you have to promise not to tell anyone else.
Okay.
No, I'm serious. No one else can know.
I promise I'm not going to tell anybody at all.
I have come here from the future. From 25 years ahead.
C'est quoi? C'est la Coppola's Touch qui vous a séduite? C'est l'histoire?
Il y a plusieurs choses dans ce film qui me plaisent. Elle, d'abord, dont je suis absolument fan, et rien que d'entendre, elle a une voix magnifique, une présence magnifique, et puis c'est une actrice dans toute sa dimension, c'est-à-dire à la fois drôle et bouleversante. Elle peut te faire pleurer en un plan, même dans un film comme ça, qui est en apparence un film un peu léger. Les gens disent que c'est pas le meilleur Coppola, parce que c'est un film de commande, qu'il l'a fait parce que, bon, il avait fait coup de cœur avant, qu'il s'était planté, que j'adore aussi. Mais c'est vrai que l'association de Coppola et de Kathleen Turner, c'est quelque chose qui m'évoque un plaisir un peu nostalgique. Et des sensations de cinéma qui paraissent un peu qui pourraient être désuètes, mais en fait qui le sont pas, parce que ça, ce qu'ils racontent, c'est assez profond et c'est assez, et si on pouvait tout, c'est l'idée de la seconde chance et puis l'idée d'un amour qui marche plus, et puis on, c'est un peu le fantasme qu'on a tous, et si on revenait en arrière et si on avait les armes pour pouvoir évoluer autrement. Et je trouve que c'est des sujets comme ça, je dirais un peu, justement, pop, un peu populaire et comme ça, mais que je trouve très universel et qui me touche beaucoup.
Vous avez aimé la version française, Camille Redouble,
beaucoup,
de Noémie Lvovsky?
Ouais, beaucoup. Il y avait une scène magnifique où elle apprend la mort de sa mère dans sa cuisine, dans mes souvenirs, qui était absolument magnifique.
On est d'accord que c'était bien la version française?
Je l'ai vu comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un hommage, non?
D'accord, on peut le voir comme ça. Pour la chanson, vous avez choisi ceci. Pop Life de Prince, sorti en 85 sur l'album Around the World in a Day. Pop Life dans Pop Pop Pop, évidemment, ça fait sens. Je crois que vous êtes une fan inconditionnelle.
Ah, je fais partie de la secte, entre guillemets.
C'est-à-dire
j'ai eu la chance, en tout cas, de voir des concerts, un concert privé au New Morning, qui a été un moment de grâce absolue et inoubliable. Et je dis même pas ça parce qu'il n'est plus là. C'est vraiment un moment où quelque chose d'extraordinaire se passe dans votre vie, quoi. Et il se trouve que j'ai eu la chance aussi en 86 de voir le concert au Zénith. C'est là que j'ai découvert Prince. J'avais 14 ans, je rentre en seconde, je suis rentrée de vacances pour aller voir ce concert, j'avais réussi à trouver deux places et ma mère m'a accompagnée, et c'est un moment qui modifie aussi votre existence.
Une révélation.
Oui, et puis vous savez, dans la musique, c'est ces artistes tout d'un coup qui vous touchent à un niveau extrême et qui vous ouvrent des cases sur plein de choses, qui vous changent. Tout d'un coup, on se met à s'intéresser à plein d'autres choses, même à des choses politiques dont on n'avait pas conscience. Donc Prince, il m'a fait ça, il m'a ouvert cette case en 86, et le dernier concert que j'ai vu de lui, c'était au New Morning. Et Pop Life, il se trouve que c'était un morceau que j'ai écouté en boucle. Je ne l'ai pas choisi à cause de l'émission, c'est parce qu'il se trouve que c'était un morceau que je me souviens toujours avec la cassette, qui n'était pas. toujours un crayon.
Mais il n'y a pas d'auto-reverse.
Si, je crois qu'à ce moment-là, on en avait quand même. Mais je me souviens de la ligne du PC. Vous vous souvenez de la petite ceinture?
Ouais.
Et moi, j'habitais Porte de Clignancourt avec ma mère et j'allais au lycée Molière dans le 16e. Et donc, je faisais une heure, voire une heure et demie de trajet. Et dans le PC, j'écoutais en boucle cet album Around the World in a Day, et notamment cette chanson où j'avais le cœur qui... Il se passait quelque chose d'organique, quoi.
Moi, j'ai connu une ligne du PC beaucoup plus stalinienne, mais c'était une autre époque. qu'est-ce que vous avez ressenti le 21 avril 2016, le jour de sa disparition?
Ah, c'était... Ouais, je me souviens même pas de la date.
Il y a deux ans, pratiquement, jour pour jour.
J'y croyais... J'ai eu du mal à y croire. Déjà, en plus, on a eu une série, quand même. Ouais. J'étais extrêmement, j'ai eu du chagrin comme tout le monde, mais le truc avec Prince, c'est qu'il y a un peu d'immortalité quand même. Il y a un sentiment que bon, voilà, il a partagé énormément de choses. Ces gens qui, je me souviens de ce concert au New Morning, où je me suis dit, en fait, c'est ça la passion artistique. C'est quelqu'un qui se lève, qui vient à 2h du matin faire un concert de 2h à 6h avec ses musiciens, qui se met de dos et qui est dans un plaisir absolu au point de carrière où il est. Et ça, c'est des choses qu'on rencontre assez peu dans sa vie. Donc, quelque part, j'ai pas du tout l'impression... La musique reste, quoi. La musique est...
Bien, on l'a compris. Vous aimez Prince. Léa Drucker, passons à la série que vous choisissez. Cette série, c'est L'Île Fantastique. Voilà ce qu'on entend là, c'est le générique de L'Île Fantastique. C'est une série américaine diffusée entre 78 et 84 sur ABC. Une série qui raconte l'histoire d'une île paradisiaque où n'importe quel désir peut se réaliser. Pourquoi ce choix?
Bah, ça aussi, c'est un peu nostalgique. C'est pour la première série qui m'a plu, en fait. J'étais gamine et je vivais aux États-Unis. Et je me souviens de ce générique, de la musique, de l'avion qui arrive. J'adorais tout le truc initiatique. On voyait les gens avec ce personnage de Rourke, l'acteur. Vous vous souvenez de Rourke?
Pas du tout.
Ah, vous l'avez jamais regardé?
Non, jamais.
L'acteur de petite taille qui était français, qui s'appelait Hervé Vilches. Et c'était mon rendez-vous hebdomadaire.
Quand un acteur de petite taille.
Il était nain.
C'était un nain, ouais. D'accord.
Et un Français. Il a joué aussi dans L'Homme au pistolet d'or. Il faisait Fric Frac. Comment il s'appelait ce personnage dans James Bond?
Et on le ratait toujours, non?
Vous pouvez pas vous empêcher.
Oh, mais quoi? Bon, et ça
mais j'aimais bien. Non, parce qu'il y a quelque chose. Surtout quand vous le re-regardez maintenant, c'est très quiche. Peut-être vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Mmh. Et moi, à l'époque, je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Mmh. Et quand je le revois aujourd'hui, je vois le côté un peu carton-pâte, très, 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 très kitsch, mais ça me donne un plaisir fou.
Il y a un petit côté ancêtre de Lost, hein, quand même.
Oui, et puis j'aimais bien l'idée des gens qui arrivaient avec leur fantasme à réaliser. Ils pouvaient réaliser n'importe quel fantasme, mais ça pouvait se retourner contre eux. Donc il y avait un truc un peu moralisateur là-dedans.
Ça serait quoi votre désir à vous sur une île paradisiaque?
J'aimerais pas tellement aller sur une île. Je m'emmerde un peu sur les îles paradisiaques.
On est d'accord. Hein. Bien, pour le livre, vous choisissez Marche ou crève, écrit par Stephen King, paru en 79. C'est un roman dystopique qui se passe dans des États-Unis totalitaires. C'est pas si dystopique que ça, au fond. Chaque année, 100 concurrents au départ sont au départ de la longue marche, mais il n'en restera qu'un seul à l'arrivée. Pour les autres, ce sera une balle dans la tête. Écoutons la youtubeuse Lemon June nous en parler.
Pour marcher, parfois, faut bien plus qu'une bonne paire de godasses. Salut les gens! Je me suis offert une petite séance de flippette littéraire sur mesure avec le roman Marche ou crève qui m'a complètement emballée. J'avoue que jusque-là j'aimais bien King sans pour autant en être une grosse fan, mais avec ce roman je suis pas loin de devenir accro. Ça a été une lecture brutale mais excellente que j'ai trouvée bien plus profonde qu'il n'y paraît, avec une maîtrise du rythme incroyable. Maintenant, affûte ton esprit d'endurance et attention, prépare-toi, parce que quand c'est signé King, la marche ça n'a rien d'une promenade de santé. Tu viens?
Ouais, et même qu'elle est super enthousiaste, hein, Lemon June.
Ah ouais.
Autant que vous.
Ben moi je l'ai pas relu depuis l'époque où je l'ai lu où j'ai découvert ce livre, mais ça me hante encore ce livre. Cette histoire de c'est même un jeu, dans mes souvenirs un jeu télévisé aussi, c'est-à-dire qu'ils sont filmés, il y a des caméras, ils font ce marathon, c'est des ados, enfin ils ont 16-17 ans, et celui qui s'arrête se prend une balle quoi. Et il y a quelque chose de diaboliquement avant-gardiste chez Stephen King, de visionnaire qui tord heureusement les. Mais quand je repense à ce livre parfois aujourd'hui, puis sur l'idée de marche ou crève, je suis une pessimiste qui lutte contre ce pessimisme, mais quand même, je trouve que c'est une idée qui
traverse le temps. Rien à voir avec En Marche.
Je n'ai pas pensé à ça.
En marche ou crève. Bien, finissons, Léa Drucker, si vous le voulez bien, cette pop-liste par le jeu vidéo. Vous avez choisi ce jeu de 1980. Mais oui, Pac-Man. Et vous appuyez ce choix de spécialiste en précisant... Ah ben non, vous dites que vous n'en connaissez pas d'autres, en fait.
Mais je suis vraiment inculte en jeux vidéo. Mmh. Mais mon souvenir de jubilation de jeux vidéo, c'était Pac-Man. Ah. Et quand je me trouve dans un endroit où il y en a un, j'ai envie de me jeter dessus. Avec la petite manette, petit personnage... Esthétiquement, je trouve assez beau même ce jeu vidéo.
J'y ai rejoué samedi dernier, figurez-vous.
Ah bon?
Ben oui, je suis tombé sur un Pac-Man et j'ai joué, je me suis beaucoup amusé. Oui.
Combien de temps vous avez tenu, c'est ça la vraie question?
Un quart d'heure.
Vous sous-entendez que vous jouez hyper bien en fait, parce que tenir un quart d'heure à Pac-Man.
Pas mal. J'ai fait 8240. Alors je résume: Léa Drucker, Peggy Sue s'est mariée, Pop Life, L'Île Fantastique et Pac-Man. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Salut les gens! I want to tell you something. Pour marcher, parfois, faut bien plus qu'une bonne paire de godasses. You have to promise not to tell anyone else. Attention, prépare-toi.
Okay.
Quand c'est signé King, la marche, ça n'a rien d'une promenade de santé.
I have come here from the future.
Tu viens?
From 25 years ahead.
Ça va, Léa?
C'est beau.
Oui.
Ah, j'adore.
Ça vous tourne pas trop la tête d'être passé par mon blender?
Non, pas du tout.
Combien de doigts?
4.
Bien! Léa Drucker, respirez, ça va continuer à très bien se passer. Et pendant ce temps, on écoute un classique de la pop culture et un classique qui va vous faire très plaisir. Bah oui, c'est pour vous, c'est votre chouchou, c'est Prince. Et là, c'est mon choix à moi. Kiss.
France Inter, pop, 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 Antoine de Caunes.
C'est un morceau de 86, extrait de l'album Parade, car vous êtes bien en train d'écouter Pop 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 sur France Inter. Léa Drucker, vous êtes à l'affiche de Place Publique, un film d'Agnès Jaoui, sorti aujourd'hui sur la Place Publique, justement, enfin sur les écrans, quoi. Vous y êtes, Nathalie, productrice télé qui organise la crémaillère de sa superbe demeure proche de Paris, et durant cette fête se croisent Castro, l'animateur vieillissant de l'émission qu'elle produit, sa sœur, ex de Castro, la nouvelle femme de celui-ci, les paysans du coin, des stars du web... Mais avant d'en parler, écoutons un extrait de la bande-annonce.
Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir?
Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité.
Je connais bien ça.
Ah oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Mais l'idole des enfants.
L'idole d'un traité.
Ah, ça t'a pas plu ça, hein?
Non, moi je suis l'idole des jeunes, toi t'es l'idole des vieux.
La.
Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand?
La.
Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien.
Putain! Mais tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là?
La.
Alors c'est un film sur grand écran qui parle aussi du petit écran. Son personnage central, joué par Jean-Pierre Bacri, est un animateur télé vieillissant, sur le déclin côté Audimat, pragmatique et cynique, en un mot comme en mille, littéralement imbuvable. Ne me regardez pas comme ça, Charline.
Non, mais je...
Nous connaissons tous les deux le monde de la télévision, même si c'est par des angles très différents, Léa. Est-ce que c'est une satire ou un documentaire ?
C'est une satire, plutôt, je dirais. Mm-hmm. C'est plutôt une comédie, comme ils ont fait sur d'autres sujets, c'est-à-dire assez féroce, en même temps, avec quand même de la tendresse, puisqu'ils ont... ils sont pessimistes, mais ils aiment les êtres humains quand même. Ils ont un tout petit peu d'optimisme qu'on peut voir à la fin.
Un tout petit peu.
Enfin, moi, je m'y retrouve complètement ouais. dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que cette vision des gens, c'est aussi qui peut parfois être un peu sombre ou cruelle. Et c'est leur moteur aussi d'écriture. Et puis, ils se remettent en question eux-mêmes, Jean-Pierre et Agnès, toujours dans l'écriture. Ils parlent d'eux aussi. Et de ce qu'ils observent, et ils nous tendent ce miroir, quoi. Et avec ils aiment s'amuser, ils aiment aussi que ce soit amusant, quoi, que ce soit drôle.
Pour camper le personnage de Nathalie, est-ce que vous aviez un modèle en tête ou est-ce que c'est une pure création ? On a ouï dire que vous auriez demandé quelques conseils à votre illustre oncle pour préparer le rôle.
Non, à un moment donné, j'avais 2-3 questions, je ne me suis pas focalisée sur une personne en particulier, mais il y a un petit mix de gens. Une personne que j'ai pu apercevoir à la télévision, puis d'autres personnes que j'ai vues dans le milieu de la presse. Mmh. Des femmes comme ça, on en connaît plein. Enfin, c'est surtout que c'est des femmes de tête, c'est des femmes de pouvoir et qui assument ce pouvoir et qui sont pas pétries de culpabilité et qui avancent tout droit. Et c'est un choix de vie, hein. Ça, c'est. Donc, je me suis dit, voilà, il fallait que je trouve un petit peu le moteur de tout ça et comment je me glissais dans ces chaussons-là avec le téléphone portable. Des fois, un personnage, on lui amène aussi sa fantaisie. Mais c'est cette espèce de tempérament, là, je l'ai observé à droite et à gauche, ouais.
C'est une comédie acide et caustique, désabusée, pour ne pas dire désenchantée, qui touche à des thèmes sensibles pour tous ceux qui font ce métier, que ce soit sur les planches, devant des caméras de cinéma ou sur des plateaux de télévision, à savoir le rapport à l'image, la hantise du vieillissement, la soumission au désir de l'autre, hein, qu'il s'agisse d'un réalisateur ou d'un directeur des programmes. Autant de thèmes qui vous ont séduit dans le scénario.
Oui, je peux m'identifier à plein de choses dans le film. La sensation parfois d'être un peu dépassée. Moi, je fais quand même de partie de la génération avant les réseaux sociaux, donc je me suis construite autrement. Maintenant, il faut que je m'adapte à ça, par exemple. Donc, par exemple, le personnage de Castro, c'est pas qu'il est dépassé, c'est qu'il est complètement dépassé et qu'il est poussé vers la sortie et qu'il est dans la jeunesse, l'angoisse, en fait. Et j'aime bien qu'il traite ça frontalement, justement, que le film traite ça avec honnêteté et audace et drôlerie, heureusement. Mais moi, ça me fait rire. Les gens qui ont été, qui ont vécu agréablement sous un masque, qui a bien fonctionné pendant un certain temps, puis qui tout d'un coup se fracasse contre la réalité et que finalement, personne ne maîtrise rien.
Que la réalité les dépasse.
Oui. Ouais.
Vous y incarnez donc une productrice télé, vous le disiez, un oreillette de téléphone greffé à l'oreille, dans un film dans lequel il est beaucoup question de la puissance, pour ne pas dire la dictature parfois des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes vous-même très connectée ?
Je suis ambiguë avec ça. D'un côté, j'ai cette prétention de dire c'est bien parce qu'on peut voir des choses intéressantes, et puis je finis par regarder des conneries comme tout le monde. Enfin, je crois. Mais je maîtrise pas bien le truc. Mais parfois, ça m'intéresse, et des fois, je me dis ah bon, il faut. C'est un outil de promotion aussi quand on fait des choses. Donc je vais pas faire la fine bouche. On dit je prends pas ça de haut du tout. Mais je le maîtrise pas si bien.
Il y a tout pour que ce personnage de productrice puisse être très antipathique, et pourtant dans ce groupe qui est quand même plein de faux-semblants, les humanistes ont des arrière-pensées, les méchants ont parfois de bonnes raisons de l'être, et bah du coup Nathalie, elle n'est pas forcément le monstre de cynisme qu'elle pourrait être. Est-ce que c'est vous qui lui avez amené un peu d'humanité et de capacité empathique, ou elle était écrite comme ça ?
En apparence, elle peut être sympathique, mais quand même, moi je trouve que Nathalie et Castro, c'est les personnages sombres du film, parce que au moment où le dilemme se fait de peut-être que lui est poussé vers la sortie, on voit qu'elle va continuer, alors qu'ils sont amis depuis longue date, que c'est un duo, que ça fonctionne. Moi, personnellement, je trouve ça terrible, je trouve ça tragique même, en tant qu'être humain, d'en arriver là. Mais c'est la route qu'elle a choisie, à la différence de sa sœur, qui, elles ont probablement eu la même éducation, elles ont les mêmes capacités intellectuelles, etc. Sa sœur, elle est restée consciente sur le monde,
racontent sur la société, sur le social, etc. Nathalie, pas du tout. Nathalie, elle avance tout droit.
Oui, elle est moins concernée par le sort des réfugiés afghans, oui.
Ça fait pas marcher l'audimat.
Non,
oui, voilà. Mais la sœur, pour autant, elle n'est pas non plus que le pôle positif. C'est-à-dire qu'elle est pleine d'empathie, elle a plein de beaux discours, mais en même temps, elle a aussi des démons intérieurs qui la travaillent, qui la rendent pas forcément très sympathique.
Non, bien sûr. Non, mais c'est pas le film n'est pas manichéen. Mais je trouve quand même que Castro et Nathalie, c'est des personnages assez durs dans ce film. Même s'ils sont drôles, mais...
Est-ce que ce rôle dans une comédie certes caustique est tombé à point nommé après deux rôles à forte charge émotionnelle dans La Consolation pour la télé où vous incarniez la mère de Flavie Flamand et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand dans lequel vous vous sépariez d'un mari violent?
Ouais, ça m'a... C'est, j'ai toujours vu ce métier comme une continuité. Les choses s'imbriquent un petit peu. La tragédie, c'est lié pour moi à la comédie toujours et vice-versa. C'est vrai que la charge émotionnelle de Jusqu'à la garde, il était difficile d'enchaîner tout de suite avec une comédie. Même tout est possible, enfin ça aurait été plus difficile. Et quand je suis arrivée sur le tournage du film d'Agnès, ça m'a fait plaisir de retrouver ce registre-là aussi, qui est pas si léger, hein, dans le fond. Mais de pouvoir incarner un personnage qui était plus... un peu plus solaire, quoi. Parce que, et même si je trouve que tous les personnages que j'interprète, je les travaille de la même manière. Il faut toujours que je trouve le moteur, leurs rêves, j'essaie toujours de les humaniser au maximum. Mais je suis ravie de pouvoir faire des choses aussi différentes que ça. C'est ce que j'ai toujours voulu, en fait.
Jusqu'à la garde, c'est encore dans quelques salles, hein, c'est un film à voir absolument, pour vous en convaincre définitivement. Petit extrait de la bande-annonce.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1. Et il a dit, mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. Vous pouvez expliquer ça?
J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Les différentes et trop nombreuses affaires de violences faites aux femmes, compris la place qu'elles devaient dans l'actu depuis septembre et la libération de la parole qui a suivi, est-ce que tout ça, ça vous a conforté dans l'idée que vous avez bien fait d'accepter ces rôles, même si vous confessez avoir eu du mal à en sortir pour celui de Jusqu'à la garde?
Oui, bien sûr. J'étais. C'est ce qui est curieux, c'est que La Consolation ou Jusqu'à la garde, on l'a fait avant que tout ça explose. Et c'était pour moi l'occasion aussi, finalement, pour une fois, d'exprimer un petit peu des choses que je pense profondément. Et puis le fait d'avoir choisi ces choses-là, ces personnages-là, dans ces histoires-là, ça me permettait de prendre conscience que je suis. Enfin, ça parle de moi aussi, des idées que j'ai sur les violences qui sont faites aux femmes. Et
est-ce qu'il y a une satisfaction particulière pour l'actrice que vous êtes de voir que les projets auxquels vous participez sont à ce point-là en phase avec l'époque?
Oui, alors c'est aussi. Il y a eu un moment où ça a été un petit peu effrayant parce que je me suis dit comment. Je pouvais pas me dire, bah, je suis pas un porte-drapeau, je suis pas une militante, tout ça, je peux parler que des choses que je ressens. Mais c'était l'occasion d'avoir une tribune et puis de pouvoir et parler du film, de parler de cinéma et en même temps parler de ses convictions et d'apporter une parole, d'ajouter une parole à la montagne de paroles qui ont émergé, quoi.
Je reviens à Bakri Jaoui. Vous étiez la saison dernière au théâtre pour y jouer du Bakri Jaoui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir intégré une tribu?
Je suis pas si tant tribu que ça, mais par contre, c'est des gens que j'aime beaucoup et avec qui j'ai un grand plaisir à travailler et avec qui j'aime bien passer du temps aussi. La tribu, j'ai toujours peur parce que j'ai toujours peur de l'enfermement, moi. Donc, et je pense que pour eux, c'est pareil d'ailleurs. Mais ouais, quelle joie, quoi, de pouvoir faire sur une année deux pièces de Jaoui Bakri mis en scène par Agnès, de pouvoir passer du temps avec Jean-Pierre en jouant avec lui sur place publique, parce que Jean-Pierre Bakri, c'est à la fois un grand acteur, mais c'est aussi quelqu'un qui c'est très agréable de discuter, d'échanger, voilà, tout simplement de passer du temps Et ça, j'étais ravie. D'abord qu'il repense à moi une troisième fois, puis qu'il pense à moi pour ce personnage-là, qui était très amusant à faire.
Ils sont comment, chef de troupe, à défaut de tribu, du coup?
Ils sont très respectueux ils choisissent les gens, puis après, ils sont très respectueux des individus qui sont là, et ils sont pas du tout intrusifs. Mais par contre, une grande beaucoup d'exigences sur le jeu, sur la rigueur, et c'est des gens qui soignent énormément l'écriture, donc on n'arrive pas à dire j'ai changé ton truc parce que ça me va mieux. Non, c'est de là, il y a une musique, il y a quelque chose à respecter. Et moi j'aime bien cette rigueur parce que ça me rassure aussi. Mais ils sont aussi dans la joie, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont aussi dans la jubilation et ils ont envie qu'on s'amuse. Et il faut que ce soit vivant.
Vous parlez de musique, Léa. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans la petite musique, Bakri Jaoui?
Mais je trouve que c'est tellement, parce que j'admire, je trouve que c'est tellement difficile de réussir des comédies profondes, des comédies qui sont à la fois, la comédie, ça se réussit par le rythme, par l'énergie, mais ça, ils arrivent en même temps à parler de choses qui nous, les grands auteurs, c'est ça. Et par exemple, Tchekhov, qui est un grand auteur de théâtre, où il y a de l'humour dans les pièces de Tchekhov, mais quand on voit une bonne pièce de Tchekhov, on se dit, ça m'a parlé à moi personnellement, ça me parle à moi intimement, ça ne s'adresse qu'à moi. Et c'est le rapport qu'on a avec les grands auteurs. Et moi, je ressens ça avec les textes de Jaoui Bakri. Je me dis, ça je sais qui c'est, ça me parle. Ce dont c'est pas des caricaturistes, c'est des observateurs, et ils n'ont pas peur d'y aller, quoi. Ils n'ont pas peur de...
Alors même si vous n'aimez pas le terme de tribu, maintenant vous faites un peu partie de la, je sais pas, une famille, je trouve un synonyme, comme vous faites partie aussi un peu de la famille Édouard Baird au théâtre, comme vous avez fréquenté un peu celle d'Alexandre Astier avec Kaamelott, juste pour le plaisir, c'est quelques instants de Kaamelott avec vous.
J'adore.
Dites.
Quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'allez pas me dire que je suis mort là, je fais rien, je me trempe les pieds.
Non, c'est bon, c'est pas pour ça que je viens.
C'est pourquoi alors?
Les prophéties, ça vous dit quelque chose?
Les prophéties?
Un bouquin. Moi, je serais vous, je jetterais un œil dedans.
Mais pourquoi?
Parce qu'à force de se foutre de la gueule des dieux, et de se mettre à la colle avec une femme de chevalier et de laisser la reine partir avec l'autre, on est bien d'accord qu'il y a forcément un truc qui va finir par vous tomber sur le coin de la gueule.
Forcément. Non, pourquoi forcément? C'est marqué nulle part, ça?
Si, justement, c'est marqué dans ce bouquin.
Ah bon? Et il est où, ce bouquin?
Oh, j'en sais rien, c'est un vieux truc qui date de Pendragon. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être une prophétie qui vous concerne dedans. Ça peut être instructif.
La fée Morgane, Léa Drucker dans Kaamelott, c'était...
Ça aussi, c'était très très bien écrit.
Ben oui, c'est excellemment écrit, évidemment.
Et lui, c'est un maniaque aussi dans la direction d'acteur. Hein. Non, pas furieux. Comme ci, pas comme ça, l'accent là, machin, et c'est vachement bien.
Si l'opportunité se présentait d'aller dans ce projet de long-métrage, là, dont on parle maintenant, c'est une espèce d'arlésienne...
Oh, j'adorerais. En costume et tout ça.
Ben oui, évidemment.
Enchanté, ouais. J'adore ça, les films en plus, les trucs en costume et tout, quoi. J'adore ça.
Bon, Alexandre, tu nous entends, tu nous écoutes. C'est bon pour Léa Drucker. Juste pour finir, je me suis laissé dire qu'il pourrait aussi y avoir une adaptation scénique de Life, les mémoires de Keith Richards. Oh ouais, le rôle du célèbre guitariste pour les besoins de cette comédie musicale serait tenu par Matt Pokora. Les directeurs de casting sont toujours à la recherche de leur Anita Pallenberg. Ça pourrait vous tenter?
C'est très gentil, mais j'ai pas le physique de Anita Pallenberg.
Ça se travaille, ça se travaille.
Ni la jeunesse, parce que...
Mais ça se travaille, tout ça se travaille, Léa.
Pourquoi j'ai envie de dire fake news?
Mais non, c'est pas des fake news.
D'accord.
Bon, Léa, on vous l'avait encore prévu aujourd'hui, vous savez faire plein de choses, mais est-ce que vous savez faire ça?
Non.
Ah, c'est idée de pop. Ah, il me plaît bien.
Voilà.
Non,
on prend, très bien. Très bien.
On met tout ça dans notre banque de données. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour lancer les pop prévisions.
D'accord.
L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots.
Je suis à bout de nerfs avec ce jingle.
Et moi donc.
L'un des héros de la série Gossip Girl est de retour dans nos télés après l'été. C'est juste pour le plaisir. Penn Badgley, qui incarnait le Lonely Boy d'Anne Humphrey, revient dans la série You dans un rôle un poil moins charmant, celui d'un harceleur, un jeune homme à l'air bien sous tout rapport, mais qui va traquer la jeune femme dont il s'est entiché grâce à son hyperconnectivité.
I wanted to say thank you.
Maybe we could get a drink sometime.
Sure.
The most valuable things in life, they need people like us to protect them.
La série s'appelle You et elle démarre en septembre sur la chaîne Lifetime.
C'est l'histoire d'un super-héros qui peut devenir tout petit comme une fourmi. Il s'appelle Ant-Man et le revoilà sur grand écran dans un numéro 2 intitulé Ant-Man et la guêpe. Hashtag passion entomologie. Ant-Man, c'est Paul Rudd et ça suffit à nous rendre le film sympathique. Bande-annonce.
I do some dumb things and the people I love the most, they pay the price.
Thanks to you, we had to run.
We're still running.
Let's go.
Ant-Man de Peyton Reed, Paul Rudd, comme dit Charline, Evangeline Lilly et Michael Douglas. Ça sort le 18 juillet au cinéma.
Du 1er juin au 28 juillet, rendez-vous aux Nuits de Fourvière, lieu sublime à Lyon et affiche qui ne l'est pas moins, puisque dans un théâtre romain, vous pourrez voir Dao, Phoenix, Her, MGMT, Jack White, IBI et eux. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a shape heartache. Point Arctic Monkeys atteint. Bah oui, ils seront, autant vous dire que les Nuits de Fourvière, hein, c'est de la passion et c'est en juillet le 10 pour Arctic Monkeys.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est vous.
Non, il va falloir arrêter avec les Arctic Monkeys.
J'arrête avec Arctic Monkeys si vous arrêtez avec Bruce Springsteen.
Les Arctic Monkeys bougent un petit doigt ou un furon, ça y est, hop, immédiatement, j'ai droit à une
Je vous dis, on fait le pari. Vous arrêtez avec Springsteen, j'arrête avec Arctic Monkeys.
Léa Drucker, avant d'accueillir le chroniqueur moustachu en Marcel que vous apercevez en régie à travers la vitre, on écoute Léo avec ce morceau, Pinball Wizard. Pinball Wizard, un morceau des Who, c'était sur l'album Tommy en 1969. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Léa Drucker. Et attention Léa, le moustachu qui vient de nous rejoindre dans le studio de Pop 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 n'est pas le motard de Village People, mais notre chroniqueur Ronan Crow.
Non mais Léa, rétablissez la vérité, vous voyez bien que j'ai pas de moustache. À la rigueur c'est une barbe.
Mais ah non mais c'est sympa de rester dans moustache. Les YMC ou pas c'est
vraiment... On fait un concert bientôt avec Sheila.
Bien, enfin, en tous les cas aujourd'hui vous allez nous parler de moustache, la
oui,
formation est bonne.
Effectivement, ça c'est vrai.
Ok.
On va parler de moustache, on va parler de cinéma et surtout je vais faire une chronique espoir, c'est-à-dire une chronique pour vous montrer qu'on peut s'appeler Rainer Werner et être hyper pop, ce qui est quand même pas mal, ce qui va à mon avis beaucoup aider les Rainer Werner du monde entier. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup des Rainer Werner.
On peut être pop mais un peu mort.
Oui, évidemment. D'ailleurs, quand on est mort, on a une grosse actu, c'est le cas de Rainer Werner Fassbinder. Hein, ça fait, à mon avis, beaucoup d'espoir pour les acteurs décédés aussi et les réalisateurs décédés qui vont revenir à la mode. Puisque ce mois, en ce moment, c'est le mois Fassbinder. Il est partout, à la Cinémathèque avec une grande rétrospective, mais aussi en salle avec des films qui ressortent et en DVD. Alors, je sais pas, Léa, si vous êtes familier de l'univers de Fassbinder.
Je connais pas bien, mais je me souviens de Goutte d'eau sur Pierre Brulant.
Ça, c'est François Ozon.
Je sais que Ozon avait fait et j'avais adoré le texte. Quoi. Mais je connais pas très bien. Mais j'aime bien Anachigoula.
C'est 80% de Fassbinder vous aimez, puisque c'est la grande actrice de Fassbinder.
Ouais. Mais je vous interromps, ma fille s'appelle Martha, il paraît qu'il y a un film qui s'appelle Martha, mais on m'a dit surtout ne le regarde pas.
Alors oui, c'est un film sur...
C'est
marrant, vous avez joué dans Jusqu'à la garde, et c'est quasiment un peu le même film, puisque c'est l'histoire d'une femme prisonnière d'un homme violent.
Voilà.
Donc voilà, c'est pas un film très rigolo, mais c'est un film très beau.
Oui, pareil, c'est
un film
c'est
très
magnifique.
Fort. Et l'actrice Margit Carstensen est géniale. Ouais. Alors on parle de Fassbinder.
Oui, je vais le regarder.
Bah, peut-être pas avec votre fille à la rigueur, parce que c'est pas un truc...
Elle a 3 ans, je
vais non. Alors on parle de Fassbinder, mais on peut peut-être aussi écouter à quoi ça ressemble un film de Fassbinder.
Warnung vor einer heiligen Nutte.
Haben Sie was zu sagen hier?
Ich denke schon.
Ich suche nämlich einen Job. Statisterie oder so.
Da lässt sich was machen.
Linda! Können Sie den Arbeitern sagen, sie sollen den Tisch da wegtun?
Ja, natürlich, aber schreien Sie nicht so.
Ich würde am liebsten mit Marlene Dietrich in der Wüste in so einem Lokal sitzen und saufen.
Antoine, oui, vous allez nous faire la traduction, évidemment, de tout ce qui s'est dit.
Oui, bien sûr. Alors, c'est une scène qui se passe dans une boulangerie.
Ouais, effectivement.
Il y a cet homme, ce moustachu, donc, qui arrive et qui demande si c'est possible d'avoir un flan.
Alors, exactement, c'est un flan aux abricots.
Oui,
il y a une nuance
alors,
dans le...
c'était avant l'euro et la boulangère lui dit, bien sûr, mais ça fera un flan vin. Il dit, non, je voulais juste un flan. Et voilà, et la scène s'étire. Elle est très facile derrière.
Très facile.
Il y a Naturlich.
Effectivement.
Tout ce que j'ai compris dans l'extrait.
Alors, c'était un extrait de Prenez garde à la sainte putain, le film de Fassbinder qui raconte le tournage catastrophe des films de Fassbinder. Fassbinder est un monstre, en fait. Hein. Il faut vraiment. Je pense que Fassbinder aujourd'hui ne passerait plus l'étape MeToo. Hein. C'est vraiment.
C'est pour ça que vous l'aimez.
Ah, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En tout cas, c'est un cinéaste qui me fascine. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a été monstrueux, absolument monstrueux, à la fois en termes de production. Il a fait plus d'une quarantaine de films. Et puis surtout, il a été monstrueux avec son équipe. Vous parliez de troupe tout à l'heure. Fassbinder a beaucoup travaillé avec sa troupe, qu'il a martyrisé, hein, globalement. Il a martyrisé ses acteurs, certains sont carrément pas remis. Ah oui. Mais c'est une figure fascinante parce que le sujet du cinéma de Fassbinder, c'est justement la monstruosité. C'est pour ça qu'on parlait de Martha tout à l'heure. Ce qui le fascine chez lui, c'est les monstres, la monstruosité et la monstruosité quotidienne. Et c'est en ça que c'est un cinéaste extrêmement pop, parce que ce qui s'est intéressé chez lui à montrer comment la société d'aujourd'hui fabriquait des monstres. Donc on est dans l'Allemagne des années 70 et il raconte à la fois les rapports de force, les rapports de pouvoir, les rapports de couple aussi. Dans Prenez garde à la sainte putain, il raconte le tournage et comment un tournage, c'est une affaire de monstre. Mais ça, Léa, vous n'allez pas me contredire. Un tournage est une affaire de monstre.
Je ne l'ai pas vécu comme ça jusqu'ici, mais j'ai entendu des histoires, bien sûr.
C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment un film qui montre comment une équipe de tournage tourne avec donc un Sibili Fassbinder et comment ce type rend toute son équipe dingue. C'est peut-être un documentaire d'un tournage d'Antoine Decaune. Mais ça, on ne saura que plus tard.
Mais je vous propose de tourner avec moi pour en faire l'expérience.
C'est un monstre. Grand
plaisir. Et vous verrez à quel point je suis monstrueux. Oh non.
Il nous met des claques.
Ah, génial. Pour nous. Mais moi, il met des claques aussi, mais pas à la radio, donc ça n'a aucun sens.
Ça se voit moins, ça n'a aucun intérêt.
Mais Fassbinder est aussi un cinéaste extrêmement politique, et ça, c'est intéressant, parce que Fassbinder, en fait, il s'est beaucoup intéressé à la manière dont le cinéma de genre pouvait être politique. Il a fait un film qui s'appelle La Troisième Génération, qui est un film qui mélange à la fois la comédie et le film militant politique, ou comment une jeunesse va se soulever contre le capitalisme. Ça vous rappelle quelque chose par rapport à aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Fassbinder, ce qui est assez fascinant, c'est quand on voit ces films des années 70, alors, ok, 70, Moquette murale, rouflaquette, moustache, acteur pas toujours au physique agréable, mais ça parle d'aujourd'hui aussi. Et c'est ça qui est très fort avec Fassbinder, c'est que quand on se replonge dans son œuvre, on a l'impression de voir les films d'aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que Fassbinder, il a inventé un truc qui est très à la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle le shared universe.
Shared universe.
Ça vous parle, Antoine?
Comme chez Marvel,
effectivement. Les films de Fassbinder s'emboîtent parfois les uns dans les autres, et ce n'est pas ça, Antoine. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de comédie humaine à la Balzac. Alors, Balzac, c'est pour les auditeurs de France Inter, Marvel plutôt pour les auditeurs de Pop. C'est-à-dire, en gros, on est dans une sorte de cinéma qui se regarde et qui avance petit à petit avec des références, des acteurs qui reviennent, avec aussi, évidemment...
Je peux vous interrompre?
Jamais, Antoine.
Est-ce qu'on peut aimer à la fois Balzac et Marvel?
Compliqué.
Non.
Pourquoi?
J'aime les deux. Je suis pas une anomalie.
Vous connaissez aussi bien Marvel que Balzac?
Non, je les connais pas aussi bien, mais j'aime les deux.
C'est vrai?
Ben oui.
Mais vous êtes merveilleux, Antoine. Fassbinder, c'est aussi le roi du kitsch flamboyant.
Vous êtes gênants, tous les deux.
Ben oui, mais il y a une histoire d'amour qui se crée. C'est très Fassbinderien, justement. Il y a un sens.
Des joueurs Marcel.
C'est ça. Vous faites fantasmer les auditeurs. Il y a un kitsch flamboyant aussi chez Fassbinder. Et vraiment, Léa, vous auriez pu être une icône Fassbinderienne parce qu'il adorait les actrices qui étaient capables d'être aussi drôles que méchantes en une seule réplique. Et ça, vous faites ça très, très bien.
Oui, j'aime bien ça. La méchanceté, des fois, ça m'amuse.
Et chez Fassbinder, les actrices sont extrêmement méchantes.
Pas dans la vie. Mais...
Les actrices sont extrêmement méchantes. Vous avez cité Anna Chigoula, qui est vraiment son héroïne absolue, qui a été aussi plus ou moins sa compagne pendant très longtemps. Et vraiment, le kitsch chez Fassbinder, c'est aussi une manière de s'amuser avec les codes. Il a fait un film qui s'appelle Lily Marlène, avec Anna Chigoula, qui raconte la montée d'une star de la musique nazie, sauf qu'il la filme comme une héroïne disco. Et donc, tout d'un coup, ça devient un film improbable, étonnant. Mais surtout, histoire de comprendre exactement qui est Fassbinder, on va l'écouter parler de son cinéma.
Ein Film ist ja immer etwas, was, oder auch ein Roman, oder mein, jedes Werk ist etwas, was vergröbert, was das Leben halt vergröbert.
Ein Film ou un roman, toute œuvre est quelque chose qui amplifie, grossit la vie. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de copier la vie, mais d'essayer de comprendre certains aspects de la vie. Il faut donc le montrer. Bien sûr, toute relation n'est pas toujours aussi sadomasochiste que je le montre souvent, mais si on la montrait aussi insignifiante et réservée qu'elle est en réalité, elle serait à peine visible.
Et Fassbinder,
c'est très bien traduit.
C'est très très bien traduit, oui. Effectivement. Fassbinder fait aussi de la série télévisée. Il en a fait bien avant les David Lynch et les Martin Scorsese.
Ah oui, ça j'avais vu Berlin Alexanderplatz.
Et Berlin Alexanderplatz, ouais. Effectivement, Le Monde sur le fil qui est son Matrix avant l'heure, et ressort également en salle 8 heures ne font pas un jour qui est son soap opéra absolument magnifique. C'est un peu le This Is Us de Fassbinder. Donc tout Fassbinder en ce moment, la cinémathèque en salle, en Blu-ray, des séries télé, des films, c'est furieusement pop, furieusement politique, furieusement Fassbinder.
Merci Renan. Deux questions rapides pour vous, Léa. D'abord, il est pas bien, mon Renan?
Il est formidable. Ça m'a donné vraiment envie d'aller à la cinémathèque.
Voilà, c'était ma
et
deuxième
en salle,
question.
Et de le voir en salle.
Oui.
Ils sortent en salle également dans d'autres salles que la cinémathèque.
Merci Renan. Et rhabillez-vous, vous allez attraper froid. Léa Drucker, il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Bah, il y a quelqu'un. Qui êtes-vous?
I don't know. I woke up in the middle of the night.
Keith. Keith Richards, mais qu'est-ce que vous faites dans ma cave?
With it going on.
Attends, parce que personne n'est bilingue ici, le traducteur a peur de descendre dans le noir. Je vais traduire en même temps, allez-y.
in my head and I had a little tape recorder.
Je suis un grand fan de Léa Drucker. Je l'ai adoré dans Coluche, film extrêmement bien réalisé. Je l'ai adoré aussi dans Jusqu'à la garde. Et là, je suis venu en France pour voir son dernier film. J'attends la séance de 21h au pâté Beaugrenel. Bon, d'accord, mais comme vous êtes ici, vous pouvez m'aider à choisir un vinyle ?
45 minutes of me snoring.
Si moi je connais Jean-Yann, ben oui, évidemment, mais enfin vous, c'est plus étonnant. Hein. Vous avez un morceau en tête ?
No, I don't think I had this in mind when I was a kid.
J'aime pas le rock'n'roll. Non, je connais pas ce morceau-là, mais c'est marrant que vous fassiez ce choix-là, vous, Keith Richards. Bon, allez-y, je vous laisse le mettre sur la platine vinyle.
Au revoir.
Ouais, ok, merci, au revoir. Il parle français, en fait.
Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable.
J'aime pas le rock.
Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
J'aime pas le rock. Et je vous dis que j'aime pas le rock.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Il n'aime pas le rock.
Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock.
Il n'aime pas le rock.
J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
Oh mince, il aime pas le rock.
Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable.
Pourtant le rock c'est bad quoi.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non. Ça me dégoûte le rock, alors j'aime pas ça alors.
Il n'aime pas le rock.
Ah moi j'aime que la veuve viennoise de toute façon alors.
Il n'aime pas le rock.
Ah le rock ça me fait, hein, ça me fait un drôle d'effet. Hein.
Il n'aime pas le rock.
Et puis dans le rock il n'y a pas de corps de chef. Et moi j'aime que ça le corps de chef.
Jean-Yann, j'aime pas le rock. C'est un morceau de 1961, extrait de Je suis pas bien portant, un choix de Keith Richards. Donc merci à Keith Richards de nous avoir rendu visite. Merci aussi à Léa Drucker. Place publique, enfin. Le nouveau film des Bakri Jaoui, réalisé par Agnès Jaoui, c'est sorti aujourd'hui. Courez-y. Merci à l'équipe de Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Ludovic Asselot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy et Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire et évidemment Ronan Cros, notre chroniqueur préféré. Demain dans Pop, l'écrivain Philippe Génada. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous, ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos moustache sur YouTube.
Maintenant, on va s'occuper de la moustache. On va venir dégager la ligne des lèvres avec des petits ciseaux très pratiques. C'est parti.
Voilà, elle est impeccable. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à notre podcast.